Écoutez IDFM en DAB+ sur toute l'Île-de-France.
Leïla Amara nous rejoint maintenant sur IDFM. Bonjour Leïla.
Bonjour.
Humoriste, oui.
On peut dire ça, oui.
Comment on peut te présenter, comédienne aussi?
Comédienne.
Parce que tu as commencé par le cinéma, je crois, beaucoup passionnément.
On va dire un peu ça. J'ai commencé surtout par le théâtre.
Le théâtre.
Et je suis venue tardivement au cinéma parce que le cinéma au départ ne voulait pas de moi.
Donc
petit à petit, j'ai commencé un petit peu à tourner.
C'est bien de se faire la main au théâtre et puis après de passer au cinéma finalement.
Mais absolument, moi c'était une de mes volontés. J'avais envie d'être une artiste. Le plus complet qui soit, quoi.
Leïla Amara, qui joue actuellement un spectacle qui s'appelle Indomptable, mise en scène de Marie-Pascal Osterite. Merci beaucoup. Avec elle, Leïla, vous avez coécrit ce spectacle.
Parfaitement, oui.
C'est important de le souligner aussi. Hein.
Mais je pense que c'est important. Que
tu aurais pu être toute seule à faire le spectacle, le show, mais c'est moins évident.
J'aurais pu. Alors, je suis déjà seule sur scène, c'est déjà un gros challenge. Et je pense que c'est bien d'être deux à l'écriture, parce que forcément, on apporte une vision toutes les deux différentes, des choses qu'on évoque. Et puis, dans ce spectacle, il y a de mon histoire, mais il y a aussi de l'histoire de Marie-Pascal, des choses qu'on a un petit peu inventées, puis des choses qu'on a réellement vécu, quoi.
Le spectacle se joue actuellement tous les vendredis à 19h30 à la Divine Comédie. C'est juste à côté des Folies Bergères. C'est à Paris, dans le 9e arrondissement.
C'est ça.
C'est un bonheur, tous les vendredis soirs, de mettre les pieds dans ce théâtre. C'est pas une grande salle, mais finalement, elle est très rapidement remplie. Est-ce que tu te sens du coup comme un cocon dans une bulle avec ce public qui est prêt presque à monter sur scène avec toi?
Mais absolument. Alors moi, je me sens un peu comme dans mon salon, et c'est et les vendredis et les samedis.
Ah, c'est le samedi aussi.
Et samedi
d'accord,
aussi à 19h30 toujours. Et c'est vrai que moi, cette proximité avec les gens me plaît énormément, parce que justement, on est là dans un spectacle. Déjà, on a un côté qui est intimiste, et puis voilà, j'ai l'impression de parler à mes copains, à mes copines, dans un salon, dans mon salon. Voilà.
On est tout de suite dans l'ambiance du... Il y a un personnage, mais il y a aussi ta vraie vie que tu racontes, Leïla Amara. On est au bled, hein.
Alors, on est au bled et pas que. C'est-à-dire
pas que
c'est vrai que
sûr.
C'est vrai que au départ,
mais au début, tu es habillé en habit traditionnel.
C'est ça. On raconte l'arrivée de ma mère. De toute façon, c'est un peu trois générations sur scène. Donc, ma mère, moi et puis mes filles. Excusez-moi de mettre le moi en plein milieu avant mes filles. Et fait du bien aussi de penser à soi un peu. Et ce qui se passe, c'est que forcément, pour comprendre un peu comment ces trois générations ont pu être là, il faut forcément raconter la première génération. Et la première génération, c'est l'arrivée de ma mère en France.
Toi, voilà. Tu as vécu en France, tu es née en France.
Je suis née en France, comme je le dis dans mon spectacle, je suis la punaise numéro 10, puisque à l'arrivée de ma mère dans le petit la petite chambre de bonne que mon père avait louée, il y avait des matelas qui étaient posés au sol avec des punaises de lit, et voilà, et ma mère était là avec en train d'essayer d'éclater les punaises de lit pour pouvoir faire les lits pour les quatre enfants qu'elle avait qui étaient nés en France et qu'elle avait ramené avec elle. Et moi, voilà, en me présentant, quand j'enlève mon costume traditionnel, on va dire, je me présente comme étant la punaise numéro 10.
Quel courage d'éclater des punaises, parce qu'en règle générale, les punaises de lit, il n'y en a pas qu'une seule, hein. Elles se reproduisent assez rapidement.
C'est ça.
C'est très drôle, justement, ce passage qui a été imaginé de quatre façon, à partir de quoi? À partir justement de ça, de ce vécu, hein. Il y a
c'est
eu
ça.
Réellement des punaises
c'est
dans
ça.
Ce matelas. Hein.
C'est ça, mais ma mère me racontait, c'est vrai que quand elle est arrivée en France, mon père lui avait vendu la France comme étant l'Eldorado, leur paradis à eux, et donc en disant qu'elle avait trouvé une superbe maison, que l'eau coulait du robinet, voilà, donc et non plus au puits. Et quand ma mère est arrivée, ils se sont retrouvés dans une chambre de bonne, avec un puits entre guillemets, l'eau qui coulait en effet au niveau du robinet, mais au rez-de-chaussée, quoi, donc alors qu'ils étaient au sixième étage. Donc tout ça, c'est quand même du vécu, hein, voilà. Et surtout, je pense que ce qui est aussi anecdotique, quand ma mère nous le raconte, c'est qu'elle a été très surprise par les températures, forcément, quand on vient d'Algérie. À l'époque, en France, quand on avait des hivers, c'était des hivers, quoi, des vrais. Et elle m'a dit, dit qu'elle avait failli mourir d'hypothermie quand elle est descendue de l'avion, parce que mon père est arrivé à Roubaix, non pas ni à Marseille, ni à Avignon.
Tes parents habitaient Alger même, ou c'était plutôt les montagnes, la Kabylie ?
Ma mère, la Grande Kabylie, et mon père, c'était un peu plus... c'était aussi dans les montagnes, mais c'était pas la Kabylie.
C'est quoi ? Je connais pas trop. Il y a la Grande Kabylie, la Petite Kabylie ?
Alors, moi, me demandez pas trop, parce que je sais que... moi, je pense que ma mère, c'est... Je sais pas si c'est la Petite ou la Grande Kabylie, mais je sais que ma mère était kabyle, mon père arabe et algérien, tous les deux.
Donc, comédienne depuis quelques années, et c'est pas forcément évident de l'imposer à ses parents et surtout à son papa.
C'est ça. Alors, moi, j'ai
parce
toujours...
Parce que maman, voilà, vit ta vie, fait quand même des
voilà,
études,
fait des
bien
études,
évidemment.
Et de toute façon, quoi que tu fasses, je serai d'accord. Et c'est vrai que ma mère m'a toujours soutenue dans cette quête-là. Et mon père, c'était de toute façon, tu es une femme. Donc forcément, bah, il voulait nous élever selon sa tradition à lui.
Et ça n'a pas marché.
Et ça n'a pas marché parce que forcément, ben moi, je tiens de lui, je suis aussi têtu, aussi borné que lui. Et donc, je lui ai tenu tête. Hein. Ça a pris pas mal d'années avant qu'il comprenne. Parce que moi, je trouvais ça légitime. Enfin, je lui disais, mais papa, je fais rien de mal. Oui, mais non, t'as rien à faire sur scène et patati. Parce qu'en plus de ça, il fallait partir en tournée. Donc je découchais ou je rentrais tard quand on jouait à 20h30 au fin fond du Nord-Pas-de-Calais, etc. Et ça lui plaisait pas. Et puis finalement, un jour, il m'a dit, bon, écoute, ma fille, si toi et moi, on passe notre temps à se disputer, c'est à cause du théâtre. J'ai dit oui. Il dit, c'est bon, tu peux en faire. Et donc, j'ai décidé d'en faire mon métier. Et ça a été formidable, quoi.
Il a été convaincu. Parce qu'il est venu te voir ou pas ? Est-ce qu'il a eu le temps ? Parce que ton papa est décédé quand ? Quelle année ?
Alors, mon père est décédé en 97. Non, malheureusement, ah oui. Il n'a jamais eu le temps de venir me voir. Mais je pense que le plus grand des compliments qu'il m'ait fait, je pense, d'ailleurs, on en parle dans le spectacle, c'est qu'à un moment donné, j'avais une sœur qui vivait un déboire amoureux, qui était très, très malheureuse et qui était retournée à la maison. Et comme elle n'arrêtait pas de pleurer, elle lui dit « Ah, mais tu t'en fiches t'as raison de revenir à la maison et pourquoi tu fais pas comme ta sœur Layla ?» Et là, il lui dit ce que moi j'ai fait. Chez ta sœur Layla, elle travaille dans le théâtre, elle a son permis de conduire, elle a les clés de la maison, elle rentre, elle sort, elle demande rien à personne. Fais comme ta sœur, c'est un homme ta sœur. Et là, c'était une façon de dire bah tiens, ma fille, sois un homme toi aussi, quoi. C'est-à-dire que mon père, il acceptait qu'on ait une liberté, mais à la condition de se dire qu'on était des hommes. Voilà, c'est ça. Et non pas des femmes libres, mais qu'on était des hommes.
Enfin, franchement, très ancré dans la tradition, ton papa, mais à un moment donné, vous avez enterré en quelque sorte l'âge de guerre.
Absolument, oui. Et puis s'est rendu compte que
c'est bien
épanoui,
passé.
Voilà, j'étais épanoui, que je travaillais.
Il a su te faire confiance.
Absolument.
Donc 12 enfants. Hein.
Oui, 12.
C'est beaucoup.
C'est même énorme. Hein. Mais vous voulez un scoop hein.
Toi aussi, tu as 12 enfants. Non.
On en parlait encore tout à l'heure avec mon producteur. Dans le quartier de mes parents, il y avait une famille française, hein, on va dire, d'appellation d'origine contrôlée, et ils étaient 27 enfants, avec le même père et la même mère. Mais il y a eu tellement de grossesses gémellaires, de triplés, etc. Mais quand même 27 enfants. Donc notre corps a quand même été battu. Et de toute façon, dans le quartier dans lequel on vivait, c'est cosmopolite, mais le point commun, c'est que c'était quand même toutes les familles nombreuses qu'il y avait.
Mais ton papa est pas venu quand même te voir en représentation à l'école, faire un spectacle, non ?
Non, à l'école, non. J'ai jamais fait de pièce de théâtre et non, jamais.
Bah, dans quelle école tu étais ?
Je sais pas, mais en tout cas, j'ai commencé le théâtre au collège en troisième et c'est là que la mouche du théâtre m'a piqué, quoi.
Qu'est-ce qui t'a plu, c'est d'être sur scène, de pouvoir t'exprimer, d'être quelqu'un d'autre au début. Tu savais pas trop si tu voulais faire ça ou pas ?
J'aimais bien, en fait, c'était les échanges avec le public. Moi, c'est surtout ça qui me plaît énormément, quoi. C'est d'être sur scène et de donner du plaisir.
Parce que c'est un métier compliqué, difficile de faire rire.
Mais on est d'accord là-dessus. D'ailleurs, le spectacle que je fais, c'est à la fois du rire, mais c'est aussi beaucoup d'émotions.
Enfin, bien sûr, oui,
d'ailleurs, c'est extraordinaire parce que une fois, il y a deux spectatrices qui étaient ensemble, qui sont venues voir le spectacle. On les a interrogées à la fin du spectacle et bien qu'elles aient vu la même chose, il y en avait une qui avait complètement retenu le côté rire. rire en disant j'ai ri du début jusqu'à la fin parce que ça me rappelait énormément de choses, et l'autre qui me dit mais j'ai été ému du début jusqu'à la fin. Donc on a vraiment deux visions différentes, et c'est en ça qu'on se dit que c'est bien, quoi.
Moi je suis gêné des fois parce que je rigole et je sais pas si j'aurais dû rigoler ou pas, mais on peut rigoler de tout finalement dans
mais
ton spectacle, voilà. Même si effectivement il y a énormément d'émotions et on passe du pas du rire aux larmes, mais presque un petit peu, pas parce que il y a des moments très touchants aussi qui sont propres à toi et tu parles aussi sur la fin de ton spectacle, donc de ton cancer que tu as vécu, donc on est un peu tous en quelque sorte sur le cul parce qu'on s'attend pas à ça, et tu as réussi à te relever, à te reconstruire et à créer ce spectacle qui avait déjà quand même été créé avant ce cancer.
C'est ça, en fait le spectacle a été créé en juin 2021. On a fait le festival d'Avignon, et puis normalement je devais après Avignon tourner à Paris, et il s'avère que on m'a annoncé au mois de septembre que j'avais deux cancers du sein, et forcément là votre vie est mise entre parenthèses, et vous vous dites mais mince, quoi, qu'est-ce que je vais faire pendant toute cette période de maladie. Donc et ça a été franchement un vrai challenge, parce que je me suis dit avec l'aide de mon producteur, il m'a dit ne te mets pas en arrêt maladie, et parce que tu vas continuer à travailler, etc. Et en effet j'ai travaillé, et c'est vrai que j'ai eu la bonne idée de créer des petites pastilles humoristiques, et on va dire des chroniques ordinaires et humoristiques autour du cancer, qui s'appelle Le plus dur dans le cancer, c'est pas le cancer, c'est les autres. Alors je rassure nos auditeurs, c'est vraiment très 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 c'est bourré d'humour, quoi, c'est assez fin, etc. Et c'est un peu comment les gens, quand vous leur annoncez que vous êtes malade, les maladresses qu'on peut vous envoyer à la figure, alors forcément il y a de la bienveillance, mais par moments les maladresses elles font mal, et vous dites mais faut les exploiter, quoi, faut donc on a fait rire autour de ça, et d'ailleurs on peut les retrouver sur mon site Facebook, là il a Amara Artiste, voilà. Il y en a 6, c'est énorme.
On va reparler de tout ça d'ici quelques minutes. Nous sommes toujours avec Leïla Amara, comédienne. Nous échangeons sur son spectacle Indomptable, qui est joué les vendredis et samedis à Paris dans le 9e arrondissement, à la Divine Comédie. Vous êtes toujours sur IDFM Radio. Aujourd'hui sur IDFM Radio, nous vous faisons découvrir l'univers de Leïla Amara à travers son spectacle Indomptable. Ça va vous permettre justement de découvrir, d'en savoir un petit peu plus sur toi, puisque tu te dévoiles, tu te confies un petit peu en quelque sorte. Est-ce que c'est une démarche qui a été longtemps réfléchie, mûrie aussi ? C'est pas forcément évident de déballer en quelque sorte un peu sa vie. Il y a beaucoup de vécu. Il y a aussi d'inventions, mais c'est quand même ton histoire que tu nous racontes, l'arrivée de tes parents, etc., les difficultés, les problématiques.
Alors c'est vrai que la fois dernière on m'a fait une réflexion en disant mais c'est pas parce qu'on a une histoire qu'on peut en faire un spectacle. Moi je pense que tout artiste qui monte à un moment donné seul sur scène, bah, quand il se dit mais de quoi je vais parler, il parle forcément de lui et donc de son histoire. Ensuite c'est vrai qu'il y a des histoires qui interpellent plus les uns que les autres. Moi je pense que la victoire dans ce petit spectacle qu'on raconte, c'est de rendre universel le propos. Hein. C'est aussi en ça que le travail avec Marie-Pascale a été très très important. Et c'est comment vous en face spectateur vous pouvez prendre les choses qu'un artiste balance, raconte, etc. quoi. Et je pense que là, ça a été quand même assez, enfin, ça a été une priorité pour nous. Et on parle de tout. On parle de, en effet, de l'arrivée de ma mère, mais de moi née en France, de ma passion pour le théâtre, comment j'ai dû imposer ça à mes parents, puis aussi de moi en tant que femme. Et puis on parle de l'amour. Est-ce que c'est facile pour les hommes de dire je t'aime? Pas forcément. Enfin, on parle de beaucoup de choses.
Tu l'as déjà entendu te dire je t'aime, ton papa ou pas?
Mon père, non, jamais. Jamais. Ça, c'est un truc. Il y avait quand même une pudeur assez incroyable dans ma famille. Mon père ne m'a jamais dit je t'aime. Et donc, c'est vrai que dans le spectacle, on évoque bien cette pudeur qui peut être un peu paralysante, etc. Et à la fois, moi, c'est vrai que j'étais toujours en quête de ce je t'aime masculin, quoi, parce que c'est. Ma mère nous disait tout le temps je t'aime, et quand j'expliquais à ma mère, d'ailleurs on en parle dans le spectacle, mais pourquoi tu nous dis je t'aime alors que papa il nous le dit jamais? Elle me dit mais moi je vous le dis parce que je suis votre mère. Bah papa c'est notre père. Oui mais c'est pas votre mère. Enfin, et c'était la logique de ma mère, et à la fois non, mon père était dans le mutisme à ce niveau-là.
Il y a aussi un sketch très drôle là-dessus, oui. Justement, effectivement, j'ai mon mari, mon amoureux au téléphone, je lui dis je t'aime et lui il répond pas ça.
C'est
il dit moi aussi.
Oui, c'est ça. Moi aussi, c'est ça, oui.
Donc, c'est une facilité.
Oui, c'est ça. Alors, les hommes, on s'est posé la question. Les hommes ne disent pas « je t'aime ». Les hommes savent juste dire « moi aussi ». Voilà, c'est ça. Et on leur demande juste une chose, mais c'est bien aussi de finir ces phrases et de dire « moi aussi, je t'aime », quoi.
Il y a aussi un passage où il y a une de tes nièces, je crois, qui te pose cette question. « Mais tata, pourquoi tu fais du spectacle un petit peu... » Tardivement, parce que c'est vrai que le spectacle Indomptable a environ 2 ans à peu
ouais,
près.
Oui, c'est ça.
Environ.
En fait, c'est pourquoi tu veux monter celle sur scène. Donc voilà, c'était... Alors moi, je suis montée sur scène seule en 2008 avec un spectacle qui s'appelait, un solo qui s'appelait Leïla dans tous ses éclats. Mais 3 mois après, je suis tombée enceinte et j'ai pratiquement eu de grossesse coup sur coup. Donc on a laissé ce spectacle un peu de côté. Et là, je remonte enfin seule sur scène. Donc c'est vrai que dans le spectacle, j'explique que quand je l'annonçais autour de moi, je vous raconte pas un peu les réflexions entre mon cousin, c'est plutôt mon cousin qui dit toi tu vas monter sur scène, mais à ton âge tu vas parler de quoi, tu vas pas faire du stand-up, et puis ma mère qui est persuadée que si je remonte, que je monte seule sur scène, c'est parce qu'il y a personne qui veut jouer avec moi. Et ça c'est un peu son angoisse, quoi. Donc c'est vrai qu'on le sort un petit peu de manière un peu humoristique, un peu comique, quoi.
Donc plein de sketchs, ça dure 1h15 environ.
C'est ça, à peu près 1h10.
À peu près, ça va très très vite. Il y a un passage où tu es aussi en discothèque. Voilà, ça.
C'est très rythmé.
C'est très rythmé. Et quand tu crées un sketch comme celui-ci, il y a beaucoup de choses qui remontent en toi aussi, des souvenirs agréables.
Mais oui, parce que il y a beaucoup de ce que j'ai vécu, etc. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, bon, on parle un petit peu des copines blondes à l'époque où la blonde, il fut un temps, avait le vent en poupe, on va dire. Et puis voilà, donc je raconte un petit peu comment quand j'étais au lycée avec mes copines, quand j'étais dans le lot, on me regardait parce que j'étais dans le lot.
Et t'as essayé justement d'imiter une de ces copines, d'avoir des cheveux blonds.
C'est ça. Bon, ça c'est fantasmé, hein. Mais c'est
d'accord.
Vrai qu'à un moment
mais
donné,
ça aurait pu faire une coloration.
Ça aurait pu, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'était bon, j'en avais complètement marre. Je voulais absolument trouver un mec, on va dire. Et donc, du coup, on sortait l'artillerie lourde. Et l'artillerie lourde, c'était justement de faire comme mes copines Farida et Jamila, d'aller en discothèque et de faire comme elles, de se teindre en blonde et de changer mon prénom. Mais bon, ça c'est purement fantasmé. Mais voilà, donc il y a toute une scène où justement, sans vouloir spoiler le spectacle, où je rencontre un mec et je suis super contente. et il finit par partir avec ma copine, quoi. Voilà.
Et le début du spectacle aussi, ça a été longuement réfléchi ou pas, de parler de la différence, de la burqa.
Dans les clichés.
Oui, tout à fait.
Alors là, ça c'était un truc, j'avais vu une interview une fois de Rachida Brakni sur un plateau de télé. Et à l'époque, il y avait les émeutes dans les banlieues, etc. Et on lui avait posé la question de savoir ce qu'elle pensait, elle, de ce qui se passait en banlieue. Et moi, ma question, c'était, mais pourquoi on lui pose la question à elle, comme si c'était le porte-drapeau de tous ces jeunes-là et je m'étais dit, mais si elle avait été blonde, si elle avait été blanche, est-ce qu'on lui aurait posé la question? Et je suis pas sûre. Donc c'est vrai que du coup, c'est un peu tout ce qu'on se dit, hein, c'est pourquoi tu veux répondre aux questions des journalistes, puisque de toute façon, c'est une amie qui me dit ça dans mon spectacle. Les seules questions qu'ils vont te poser, comme tu es d'origine maghrébine, ça va être autour des jeunes dans les banlieues,
le voile,
la burqa et le séparatisme aussi, puisque c'est tout récent ça aussi.
Oui, tout ça c'est évoqué en plus dans le spectacle.
Mais absolument, oui.
Avec beaucoup d'humour, beaucoup d'humour,
et parce que je pense qu'il faut aussi en avoir. Et puis voilà, après il y a des choses qui sont peut-être un petit peu trop incisives, qui peuvent déranger, mais c'est ma pensée et c'est important d'avoir, voilà. C'est notre pensée, je dirais même.
Le spectacle va se jouer jusqu'à quand?
Alors, à ces horaires-là et à ces jours-ci, jusqu'au 31 décembre. Et je suis super contente parce qu'on va prolonger. On va passer tous les mardis, toujours à la comédie, à la Divine Comédie, à 19h30. Parce que bah, après, je pars aussi en tournée et que je vais avoir besoin de mes vendredis et de mes samedis.
Beaucoup d'allers-retours, Lille-Paris, Paris-Lille, oui. Actuellement.
Mais ça se fait très facilement, voilà.
Oui, c'est...
Une heure de route?
Oui, c'est ça. En train aussi, c'est pratique quand ça fonctionne.
Quand ça fonctionne, forcément. Quand ça fonctionne, on est d'accord, c'est bien de le souligner.
Et un jour, venir ici, habiter à Paris ou en région parisienne, non?
C'est pas d'actualité et il faut pas oublier que j'en parle dans mon spectacle. J'ai quand même deux filles et puis je suis pas toute seule à décider. Elles ont leur papa, elles ont leur vie et puis on sait pas. On est à l'abri de rien.
Tes filles sont contentes aussi pour toi. Est-ce que tu les inspires aussi?
Alors, je les inspire énormément. Alors, ce qui est quand même assez embêtant avec mes filles, c'est que souvent, c'est « Ah, maman, arrête de faire ton cinéma !»« Ah, maman, voilà !» Elles voudraient peut-être avoir une maman un peu plus discrète. Et c'est vrai que je suis assez exubérante et elles ont aussi un peu tendance à tenir de moi. Alors, je pense que je les inspire, oui, parce que j'ai ma fille aînée qui a 13 ans et qui m'a annoncé il y a à peu près 2 ans qu'elle voulait devenir... actrice, voilà, c'est ça. Et il y a même pas très longtemps, je me dis, tu sais, ça serait bien que tu prennes des cours de théâtre quand même pour essayer de te mettre peut-être le pied à l'étrier. Puis là, elle me dit, bah non, maman, t'as pas compris. Moi, je veux pas être comédienne, je veux être actrice. Et là, c'est là que je me suis dit, mais en fait, dans la tête de ma fille, en effet, une hiérarchie, elle veut réussir et elle veut pas être comme sa mère au final.
Bah,
voilà.
Comédienne, actrice, c'est presque la même chose. Bon, effectivement, d'accord. Un comédien, c'est plus le théâtre.
C'est ça.
Et acteur, actrice, c'est le cinéma. Mais
c'est ça,
finalement...
bon, elle veut faire du cinéma, elle, c'est ça.
Bon, ok. Donc, elle veut rentrer dans le grand écran, qu'on puisse la voir dans les salles de cinéma.
Mais je pense que c'est ça.
Il y a eu des films, hein, justement. Notamment un film Hippocrate en 2018 avec Louise Bourgoin et aussi Géraldine Nakache.
Ouais, c'est la série, ouais.
Donc ça, c'était sympa aussi, c'était une super. Bonne expérience. Comment on arrive sur un tel film, sur une telle série, du coup?
Bon, on arrive sur une telle série parce qu'on a la chance d'être casté, d'avoir accès au casting. J'avais un agent à l'époque. Alors, j'en ai plus parce que bah, elle est partie à la retraite. Et puis, donc voilà, j'ai été casté pour ça. J'ai aussi fait une apparition dans le bureau des légendes. Et puis, quoi d'autre? Un téléfilm, où j'avais eu 5 jours de tournage et je m'étais bien pour France 3 et je m'étais bien éclatée aussi là-dessus. C'était ma première expérience cinématographique. Et puis là, on pourra me voir très prochainement dans le téléfilm Les François avec Isabelle Testu et Samuel Labarthe au mois de décembre. Et je fais le médecin légiste. Et si ce téléfilm rencontre le public, ça deviendra ce que j'espère ardemment, ça deviendra une série et j'aurai le rôle récurrent du médecin légiste. Donc on croise tous les doigts.
Très bien. Pour revenir aussi sur les petites chroniques humoristiques, dans le cancer, le plus dur, c'est pas le cancer, c'est les autres. Mm-hmm. Il y en aura d'autres ou pas? Ou là, c'était vraiment 6 chroniques exceptionnelles.
Ouais, ce sera 6 chroniques exceptionnelles et je pense que maintenant on avance. Mes soins sont derrière moi. La maladie est derrière moi, même si on sait que bon, on a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein, tant que les 5 ans sont pas passés après tout ça. Non, en revanche, je suis en train de préparer parce qu'on tu me demandais si justement j'inspirais mes filles, mais mes filles m'inspirent énormément et je suis en train de préparer des petites scènes où je vais jouer la mère de mes filles et en gros c'est finalement à la maison il n'y a pas que 2 mots mais il y en a 3 avec, si on compte ma mère quoi. Et donc ça va être des petites scénettes comme ça très rapides, moins d'une minute qu'on va commencer à filmer prochainement et donc on verra, on entendra juste mes filles en voix off mais ça sera moi qui serai à l'image et c'est des échanges un peu rigolos entre une maman et ses enfants quoi.
Ces chroniques, tu les as fait pour toi parce que ça t'a fait du bien aussi.
Oui, c'était ma thérapie.
Et aussi pour rassurer d'autres personnes qui ont un cancer, pour leur donner des conseils ou pas oublier, mais je veux dire s'en amuser finalement.
S'en amuser, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de me faire pas mal de connaissances suite à la diffusion de ces chroniques. C'est vrai que des fois je me souviens, une photo de moi avant de diffuser ces chroniques où il y avait la tête de Gollum, où ça c'était avant la chimio, et après j'avais mis la tête de Gru dans Moins moche et méchant, et ça c'était après la chimio. Et il y avait un monsieur qui disait c'est super, vous avez fait ma journée, moi je suis en plein là-dedans, je vais me raser la tête avant que ça ne tombe quoi, parce que voilà, et j'avais vraiment des personnes qui me disaient mais moi j'attends la sortie de ces chroniques là parce que ça m'aide énormément et ça a été aussi fait pour ça, pour moi mais aussi pour les autres, et quand j'ai ces retours là je suis vraiment plus que touchée quoi.
Et merci Leïla Amara, merci d'être passée aujourd'hui sur IDFM Radio. Ta maman vient peut-être pas tous les vendredis quand
non.
même, mais elle est déjà venue.
Elle m'a déjà vu jouer en spectacle il y a très très longtemps.
Et elle te dit pas, tu exagères un petit peu, j'ai pas un accent si prononcé que ça.
Écoutez, je vais vous raconter juste une petite anecdote. En 2004, j'avais déjà ce personnage de ma mère dans un spectacle qu'on avait créé sur l'Algérie avec une compagnie théâtrale du nord de la France. Et quand j'étais persuadée que j'avais créé ce personnage, et quand toute ma famille est venue, j'avais mes frères et mes sœurs qui me disaient waouh, qu'est-ce que tu imites bien maman, et idem pour mes neveux et nièces. Mémé, alors là, tu l'as pas loupé. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, non, je suis juste dans le mimétisme, quoi. Et ma mère est une grande, grande source d'inspiration et je l'aime énormément.
Et ben voilà. Merci beaucoup encore, Leïla Amara. Le spectacle Indomptable à la Divine Comédie à Paris, dans le 9e arrondissement. Pour l'instant, c'est jusqu'au 31 décembre, les vendredis et samedis.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt, merci.
Très vite.
J'apprends mes erreurs, je laisse faire, je construis.